J'ai voulu vivre pour le punk, mourir pour le punk. En tout cas, je suis devenu punk jusqu'au bout des ongles. C'était un mouvement complètement rebelle. On était contre tout. C'était un mouvement autodestruction. Vivre à fond, vivre vite et mourir vite. Pour dire au monde, si vous continuez, voilà ce que vous produisez comme jeunesse. Une jeunesse qui n'a pas d'avenir, une jeunesse qui est complètement paumée, une jeunesse qui se détruit. Les gangs s'affrontaient, quoi. Et puis au départ, c'était avec des armes blanches, et puis il commençait même à y avoir des armes à feu. On était vraiment dans la culture de l'ultra-violence. En fait, on était toujours dans un contentieux. Une bande voulait régler ses comptes avec nous, puis après, nous, il fallait qu'on rende la monnaie. Et puis, il y avait une surenchère à chaque fois. Hein. Celui qui serait le plus fou, le plus déjanté, le plus violent, qui serait le plus respecté, quoi. Ça a été dramatique. Moi, sur mon corps, j'ai plus d'un mètre de cicatrices. Il y a eu aussi les overdoses, les suicides, les accidents de la route. Il y a eu des morts de tous les côtés. Hein.
Lors d'une bagarre, vous prenez un coup de batte de baseball en pleine tête. Vous êtes alors hospitalisé au CHU de Caen et vous rencontrez Daniel qui vous parle du Christ.
J'ai pris un gros coup de batte de baseball. En fait, le gars, il m'a shooté la tête dans l'intention de me tuer, hein, pas juste de me faire une bosse. Résultat, j'ai eu le crâne fêlé. Je me dis, c'est peut-être parce que le crâne a fêlé que la lumière a pu rentrer, quoi. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital et puis là, je rencontre Daniel, mon voisin de chambre, qui me persécute avec l'évangile, quoi. Et puis là, bah, j'ai vécu mon premier miracle. Je ne l'ai pas tapé, parce que mon langage, moi, ma communication, c'était que la violence. Et quand quelqu'un me prenait la tête, surtout avec des sujets qui ne m'intéressaient pas, bah, je tapais tout de suite. Et là, bah, j'y ai même pas pensé. Et comme j'étais obligé de rester dans les lieux, bah, j'ai dû supporter toute son évangélisation. Mais ça a fini par porter du fruit.
Une fois remis sur pied, vous sortez de l'hôpital. Que se passe-t-il ensuite ?
Bah disons, juste avant de sortir déjà, on a eu une discussion très forte. J'ai dit à Daniel, j'ai dit ok, allez, Dieu existe, c'est bien, t'as voulu m'en parler, c'est bien, mais moi ça m'intéresse pas, puis je vais te donner quatre raisons pour lesquelles ça ne peut pas marcher avec moi. Première, tu dis que Dieu est amour, ça je peux pas croire, parce que sur Terre il y a personne qui m'aime, même moi je m'aime pas, alors comment quelqu'un là-haut sur son nuage peut dire qu'il m'aime ? S'il m'aime, pourquoi il m'a fait naître dans une famille comme ça ? Pourquoi mes copains sont morts ? Pourquoi les gangs ? Pourquoi la drogue ? J'ai dit, je peux pas croire. La deuxième raison, tu me dis que Dieu est puissant. Bah, s'il est amour et qu'en plus il est puissant, pourquoi il n'a pas épargné mes victimes ? Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Soit il ne les aimait pas assez, soit il n'était pas assez puissant pour m'arrêter. La troisième raison que j'ai invoquée, c'est, je dis, écoute, toi tu dis que tu t'es converti, que tu as choisi Jésus. Je dis, c'est bien, moi à 18 ans, j'ai coupé mon pouce, j'ai signé avec mon sang, j'ai fait un pacte avec Satan, j'ai aussi choisi mon camp et c'est trop tard pour moi. Et puis la quatrième raison, c'est que même si Dieu pouvait me changer, je suis incapable de vivre dans ton monde. Je me sens comme un handicapé social. Je suis incapable de me marier. Je suis incapable d'avoir des enfants. Il y a assez de malheurs sur Terre. Puis je suis incapable d'aller travailler. Je hais trop la société. Puis elle me le rend bien. Et là, j'ai vu qu'il était un petit peu décontenancé, quoi. Quand je suis sorti de l'hôpital, les guerres de gang ont repris de plus belle. J'ai vécu un drame. Mon meilleur copain, celui de lequel on était le plus proche dans le gang, s'est suicidé. Et là, j'allais le suivre. Je me suis préparé à un suicide réussi. Puis juste avant de passer à l'acte, tout ce que j'ai entendu à l'hôpital est remonté à la surface. Et c'est ça qui est remonté, que ma vie pouvait redémarrer comme si j'étais né dans une famille normale. Que ma conscience pouvait être soulagée, que je pouvais être pardonné, que je pouvais redémarrer à zéro. Puis je me suis dit, bah, je ne paierai rien à essayer, quoi.
Vous rappelez Daniel qui vous invite à une réunion de prière. C'est votre premier contact avec les chrétiens. Comment cela s'est-il passé ?
Alors au premier abord, très très mal. Déjà, je ne comprenais pas qu'il y ait beaucoup de jeunes. Les jeunes qui croient en Dieu, c'est impossible à notre époque, quoi. On leur a lavé le cerveau, c'est pas possible. Premier contact avec les chrétiens, je les entendais chanter, j'avais honte pour eux. Je disais, comment on peut chanter des chants aussi vieux, et puis y croire en plus, quoi. Et puis quand le pasteur s'est mis à prêcher, j'ai rien compris. Là, j'ai découvert que mon bac moins 4, il était évident. Et puis à la sortie, il y a un gars qui m'a intercepté, il m'a dit, bonsoir frère. Et puis il voulait me faire la bise. Alors, moi, je dis, en plus, un gars qui veut m'embrasser, mais non, ils sont tous fous ici. Bon, maintenant, j'ai su par la suite que eux aussi avaient eu un choc culturel. Hein, parce que la première fois que je suis venu dans une assemblée, j'avais un blouson de cuir avec des têtes de mort partout, des clous, j'avais le crâne rasé avec un iroquois rouge, une épingle à nourrice dans la joue, un collier de chien autour du cou, j'avais un pistolet dans la ceinture, dans le dos, et ils avaient tous peur, quoi. La seule chose qui m'a fait revenir, en fait, c'est parce qu'il y avait des filles. Mais j'étais pas intéressé par la religion, j'étais pas intéressé par ce que disait le pasteur, j'étais pas intéressé par les chrétiens. Ils me paraissaient vraiment mes vieux jeux d'une autre époque. J'avais l'impression que c'est eux qui avaient des problèmes, quoi. Pendant plusieurs semaines, en fait, pas grand-chose a changé. Je m'ennuyais toujours autant. Mais un jour, il y a quelqu'un qui a donné son témoignage de conversion. Et moi, ce témoignage-là, il m'a percuté, quoi. Ça a été comme un deuxième coup de batte de baseball. Parce que là, c'était un langage que je comprenais. Moi, les histoires de Nicodème, de Zachée, des disciples, je comprenais rien du tout. Et là, quelqu'un qui était alcoolique, qui était violent, qui a connu la prison, là, c'est un langage que je comprenais. Et puis ça, ça m'a touché. Ça a mis une image que je pouvais comprendre.
Alors, pour vous, personnellement, est-ce qu'il y a eu un moment où il y a vraiment eu la conversion, quelque chose de fort? Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
Alors, en fait, j'ai donné un coup de coude à mon voisin suite à ce témoignage-là. Puis je lui dis, là, on voit que Dieu a fait quelque chose pour lui. C'est évident. Moi, ça fait plusieurs semaines que je viens et puis il se passe rien. Hier, je me suis encore battu. Ce matin, je me suis encore drogué. La semaine prochaine, je passe au tribunal. Je savais bien que j'étais trop pourri et que Dieu pouvait rien pour moi. Et là, il m'a répondu, il me dit, écoute, c'est pas le fait de venir ici qui va changer ta vie. Tu peux chanter des cantiques. Moi, ça risquait pas, mais bon, ça va pas changer ta vie. Et là, je lui ai dit, bah alors, je savais bien que ça servait à rien que je vienne. Il me dit, si, c'est bien de venir, mais c'est pas ça qui change une vie. Et lui, il m'a dit, qu'est-ce qui change une vie? C'est de rencontrer le Christ et de lui confier ta vie. Et pour moi, c'était de la pleine science-fiction. J'ai dit, mais rencontrer Jésus, tu l'as rencontré, toi? Il m'a dit, oui. Je dis, ouais. Et quelle couleur y sont ses yeux? Et là, il m'a répondu une réponse qui est restée gravée à vie. Il m'a dit, écoute, quand Jésus vient dans ta vie, tu le vois pas avec tes yeux, tu le touches pas avec tes mains, mais il est tellement réel que ça te suffit. Et là, il m'a expliqué comment il avait fait, comment il avait prié. Et du coup, je suis rentré au squat, j'ai attendu que tous mes copains partent, et j'étais tout seul dans ma chambre de squat. C'est une chambre où il s'était passé tellement de choses, où il y avait tellement aussi d'armes, de poudre, de drogue, que je dirais, même les anges, ils auraient peut-être eu peur d'y rentrer, quoi. Et au milieu de cette chambre, j'étais à genoux, puis pour la première fois de ma vie, j'ai prié. J'ai crié à Dieu, j'ai vraiment crié, mais littéralement, hein, parce que je pensais qu'il était très loin. Donc j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, Dieu, je sais même pas si tu existes. Eux, ils disent que tu existes, mais moi, j'en sais rien. En tout cas, il paraît que tu as envoyé Jésus. Pendant que Jésus était sur terre, et ben, il changeait les vies, j'ai besoin que ma vie change. Guérissez les malades, j'ai besoin d'être guéri. Il chassait les démons, j'en ai un bon paquet à faire partir. Il paraît que si je meurs tout de suite, je vais en enfer, et puis, bah, sûr, j'y vais en première classe. Donc si tu me sors de là, si vrai que Jésus il a donné sa vie pour moi, ben, je te donne ma vie. J'ai prié à peu près comme ça. Et pour la première fois de ma vie, ben, j'ai senti la paix, quoi. Il y a une paix qui est descendue sur moi. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti aimé. J'étais tellement dans la paix que je me suis endormi. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais heureux. Première fois de ma vie aussi. Puis le midi, je me suis rendu compte que de toute la matinée, je n'avais pas pensé à la drogue. Alors qu'avant, c'était une véritable obsession. Première pensée du matin, quel est le plan de la journée pour pouvoir me payer ma dose? Ça, c'était mon cadeau de bienvenue dans le royaume de Dieu. J'ai été instantanément délivré de la drogue. Alors que j'avais déjà fait deux cures de désintoxication, hein. Je tournais à la drogue dure. Et là, j'ai été complètement délivré. J'avais rencontré le Christ. Je savais toujours pas qui était Nicodème, qui était Zachée. Je connaissais toujours pas la Bible, je connaissais pas les cantiques. Je connaissais rien d'autre. Par contre, il y avait des choses que je savais. Je savais que Dieu existait. Je savais que Christ existait. Je savais que maintenant, il était rentré dans ma vie. Je savais que j'étais du bon côté. Je savais qu'il m'aimait. Quelque part, et ben, ça me suffisait, quoi.